Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le film « Sympathie pour le diable » sorti la semaine dernière sur les écrans nous ramène, voici presque 30 ans en arrière, au siège de Sarajevo par les armées serbes. Un épisode qui, plus qu'un autre peut-être, symbolisa dans la première moitié des années 90 ce que représentaient les guerres des Balkans qui ravageaient alors le cœur de l'Europe, alors même que le continent, comme le reste de la planète, croyait célébrer la fin de l'histoire et la victoire universelle de la démocratie. Mais ce film de fiction est aussi le portrait de l'auteur du livre dont il s'inspire, le journaliste français Paul Marchand. Journaliste atypique, furieusement indépendant, courageux, individualiste et provocateur, Marchand fut l'un des premiers reporters occidentaux à arriver à Sarajevo comme freelance. Il y travailla pour plusieurs radios francophones, sans jamais porter de gilet pare-balles, au volant d'une voiture sur laquelle il avait inscrit « Je suis immortel » et prenant tous les risques avant d'être rapatrié de force après s'être pris une balle dans le bras en octobre 1993. Dans les années 2000, installé au Canada, il entama une carrière littéraire qui lui valut 4 livres avant de se suicider par pendaison en 2009. À son enterrement au Père-Lachaise, tout le monde comparait les différentes histoires qu'il avait racontées sur sa famille et aucune ne coïncidait. Sympathie pour le diable nous donne l'occasion de revenir à la fois sur cette personnalité audacieuse et opaque et sur une époque dont nous payons peut-être encore aujourd'hui les ambiguïtés. Pour en discuter avec nous aujourd'hui, Rémi Urdan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter au Monde et vous nous parlez de Sarajevo. Renaud Girard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter au Figaro. Jean-Yves Potel, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain universitaire, spécialiste de l'ex-Europe de l'Est. Et vous avez beaucoup écrit sur la transition démocratique. Et enfin, Guillaume de Fontenay, bonjour.
Bonjour.
Vous nous parlez du Canada, de Montréal, hein, où vous êtes. Vous êtes réalisateur, cinéaste et metteur en scène de théâtre. Vous avez travaillé notamment avec la compagnie Carbone 14 à Montréal. Et alors, si j'ai bien compris, vous avez connu Paul Marchand au travers quand vous étiez correspondant pour Radio-Canada, c'est ça?
Absolument. C'était la voix à Radio-Canada de la Bosnie à l'époque.
D'accord. Et vous avez lu son livre en 97, Sympathie pour le diable?
Oui, j'ai lu son livre en 97. J'ai eu l'idée à ce moment-là d'en faire une pièce de théâtre, mais j'ai pas eu le courage d'aller voir Paul. À ce moment-là, et c'est qu'en 2005 où j'ai proposé le projet de film à Nicole Robert chez GoFilm à Montréal.
Vous n'avez pas eu le courage, qu'est-ce que vous voulez dire?
J'étais impressionné quand même, c'est un jeune homme. Et Paul était une grande gueule quand même, impressionnante, et j'ai pas eu le courage d'aller le voir pour lui dire, tiens, j'ai envie de faire un spectacle, on fait une phrase d'1h10, et c'est toi qui fais la narration, comme ça, assis sur une chaise toute simple, avec des restes de guerre au sol et des téléviseurs avec les news derrière.
Et le montage du film a pris combien de temps entre le moment où vous avez lu le livre et le film, et la réalisation?
Écoutez, le livre, je l'ai lu en 97, ensuite, le film, on l'a démarré en 2005, J'ai été voir Paul pour la première fois. À ce moment-là, j'ai eu le courage d'aller le rencontrer. J'ai été le voir à Sens, où il habitait avec sa femme à l'époque et sa fille. Je voulais juste être sûr qu'on soit raccord et qu'on ait envie de travailler ensemble l'un et l'autre. Et puis, s'en est suivi une collaboration étroite jusqu'à ce qu'il mette fin à ses jours. Paul nous a accompagnés dans l'écriture du scénario parce que je ne suis pas journaliste de guerre.
Ah oui.
Je ne suis pas bosnien, donc... Ce film aurait été impossible à écrire sans son étroite collaboration tout au long de ces 3 années, y compris pour écrire le scénario. Ensuite, ça a été un très long montage financier parce que le sujet, on m'a dit que, un, Paul n'était pas une vedette, donc sans intérêt, et deux, que c'était une guerre oubliée, que
oui.
C'était une guerre sans intérêt. Donc, deux sujets sans intérêt qui ont fait en sorte que ça a été très difficile de rapatrier des gens autour de ce sujet qui pourtant me semble d'autant plus pertinent aujourd'hui, à un moment où les journalistes de guerre risquent leur vie, continuent à mourir chaque année, à faire leur métier, à nous alarmer de ce qui se passe dans le monde, à relayer des informations qu'on tente de nous cacher. Et on a besoin d'eux. Je trouvais que ce film est à la fois le relais cris d'alarme, c'est le cri d'alarme que Paul posait à cette époque. J'écoutais des archives récemment, il disait très souvent en terminant ses articles, tout ça sous l'œil impassible de la communauté internationale. Et je trouve que cette phrase résonne très fort aujourd'hui. J'ai pas entendu beaucoup de journalistes avoir le courage de l'exprimer de façon aussi claire. Et je la trouve très forte. Paul, c'était une des intelligences les plus vives que j'ai rencontrées, une sensibilité extraordinaire, une plume exceptionnelle. Ensuite, par rapport à ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu dire, je n'ai pas essayé de dresser un portrait héroïque de Paul, simplement d'être le plus juste, le plus honnête possible face à Paul, face à ce métier, et face aussi aux différentes façons de le pratiquer. Je ne me porterai pas juge là-dessus. Si les vedettes se rendent à Sarajevo et qu'ils sont capables, qu'elles sont capables de rallier des dizaines, des centaines de milliers, voire des millions de téléspectateurs autour d'un sujet comme celui-là, tant mieux. Et voilà, donc c'est un film qui me semble vraiment pertinent aujourd'hui, à un moment où on parle de fake news, en pointant du doigt le New York Times, CNN, le Washington Post le plus souvent, à un moment où certains journalistes ont été tués jusque dans leur ambassade, où on emprisonne, on tue les journalistes partout dans le monde, il me semble pertinent de rappeler l'importance de ce métier, le courage de ceux qui le pratiquent, et notre devoir, nous, en tant que lecteurs, citoyens, spectateurs, auditeurs, de suivre des informations et de ne pas juste swiper les news sur notre téléphone avec les grands titres. Il y a quand même urgence en la demeure sur plusieurs sujets.
Alors on entend la phrase sur la communauté internationale répétée plusieurs fois dans le film, et c'est par Neil Schneider qui joue Paul Marchand, qui fait un travail d'incarnation de Paul Marchand assez considérable. Rémy Audan, vous avez très bien connu Paul Marchand.
Oui.
Je ne sais pas en fait si vous avez vu le film.
Oui, j'ai vu le film à la première française.
Oui, et j'ai deux questions en fait. Est-ce que vous avez retrouvé Paul Marchand dans le film, d'une part, et d'autre part, vous étiez très proche de lui. Comment est-ce que vous êtes rencontré à Sarajevo, vous connaissiez d'avant?
Ah non, je ne connaissais pas d'avant. Moi, quand j'arrive à Sarajevo, je suis un jeune, je ne connaissais pas le journalisme, ni l'ex-Yougoslavie, et donc pas du tout Paul Marchand. Voilà, le jour où j'arrive à Sarajevo, y a un grand gars avec un bout de cigare dans la bouche qui m'accueille, et dans le hall de l'hôtel où s'étaient un peu regroupés les journalistes, c'était Marchand, qui lui était arrivé, je sais pas, 10 jours avant. Donc voilà, on était au début de la guerre, et oui, pendant cette année-là, c'était mon meilleur ami, enfin, on était beaucoup ensemble. Alors lui arrivait de 8 ans de Beyrouth, et moi je démarrais dans ce métier. J'ai vu le film, je trouve que Guillaume de Fontenay a réussi un pari assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'outre le fait que ce soit très juste sur Sarajevo, et là, pour connaître bien la ville et les gens qui ont travaillé avec lui, c'est le premier film qui est... Souvent les films ici, ils ont été faits en décor, ou ils ont été tournés à l'étranger, les films sur la guerre de Bosnie, c'est le premier film qui reconstitue la guerre dans la ville. Et l'équipe sarajevienne qui a travaillé avec lui a fait un travail vraiment assez extraordinaire. On a l'impression d'y être. Et sur Paul, il a réussi un peu ce truc très étrange. Enfin, qu'à vrai dire, j'étais moi pas sûr qu'il allait réussir. C'est à la fois un portrait d'un personnage très original, très extrême, très radical. Et à côté de ça, le portrait quand même d'une profession. C'est un peu comme dans Le Salvador d'Oliver Stone, vous savez, où il y a James Woods qui est complètement déjanté, et puis à côté, il y a un photographe et puis d'autres journalistes avec leurs qualités, leurs défauts, et c'est un peu le portrait assez fidèle tout de même, d'une profession. Alors certes, d'individus très particuliers, dans une situation très particulière, c'est pas le journalisme en général, c'est... une poignée d'aventuriers, pour la plupart freelance, dans une ville assiégée, mais c'est assez fidèle à ce, je crois, ce qu'on était à l'époque.
Renaud Girard, vous aussi, vous l'avez connu, Paul Marchand. Vous avez raconté dans le Figaro dans quelles circonstances vous étiez rencontrés.
Mais en fait, c'était la fin du mois d'août 1992. J'avais déjà fait un long séjour au mois de mai 92 en Bosnie, à Sarajevo. Et là, les choses avaient changé. C'est-à-dire l'hôtel où se retrouvaient les journalistes était différent. C'était l'Holiday Inn, celui dont vient de parler Rémy Audan, et qui est dans le film, qui est le même exactement, qui n'a pas changé en fait. Et l'hôtel était complètement vide. Il y avait personne à la réception. Et tout d'un coup, j'entends, enfin, derrière moi, une grosse voix. Toi, je parie que t'es Renaud Girard. Alors je me retourne et je dis oui. Et ouais, j'ai lu ton papier sur la route, c'était pas mal. Est-ce que tu veux que je t'emmène faire un tour? Alors j'ai dit oui, enfin si tu me trouves la réceptionniste d'abord. Et il m'a emmené faire un tour dans sa voiture, où en fait la phrase était plus longue que « Je suis immortel ». C'était « Don't shoot, you waste your bullets, I am immortal ». Voilà. Enfin, la voiture est très bien campée dans le film. Et donc il m'a emmené dans un Sarajevo, donc qui était différent, hein, puisqu'il y avait eu quand même deux mois de guerre entre mes deux voyages. Et c'était très calme ce jour-là. Il y avait d'ailleurs une délégation diplomatique qui était en ville. C'est pour ça peut-être que c'était très calme. Et il m'a emmené notamment au cimetière, où j'ai vu toutes les tombes fraîches. Il m'a montré le front, qui était un front fait de forêts, de HLM, de champs. Vous voyez, c'était à la fois rural et citadin comme front. Tout autour hein, de cette cuvette, c'est assez beau hein, comme la cuvette de Sarajevo. Et puis il m'a dit aussi, donc il a commenté tout ça, on a fumé une cigarette dans le cimetière et il m'a dit que cette visite diplomatique, je me souviens, c'était Lord Owen, c'était un Anglais qui était chargé d'essayer de faire la paix. Ça n'avait aucune chance de marcher. Et puis il m'avait dit. Il se sentait un peu, c'était presque une provocation de dire ça, parce que j'avais déjà moi-même un petit peu d'expérience dans le reportage de guerre, j'avais été en Afghanistan, en Iran, en Irak, tout ça, et il m'avait dit, tu sais Renaud, j'ai une petite lumière, parce que je lui dis, tu crois pas que tu prends quelquefois trop de risques? Il dit, non, j'ai une petite lumière rouge qui s'allume dans ma tête, pour me dire quand c'est trop dangereux et donc je sais, je suis prévenu en fait par Dieu quand c'est dangereux et donc on a fait ensemble des conneries, on traversait le front pour aller se doucher par exemple chez les casques bleus de l'ONU et en fait cette petite lumière rouge l'a abandonné parce que en octobre 93 il a été blessé très grièvement, donc quand vous avez dit qu'il avait été rapatrié de force, on a l'impression que il aurait été expulsé. Non, c'est des médecins français de l'ONU qui l'ont sauvé. Devait mourir, quoi. Qui l'ont sauvé. Il était beaucoup de chance. Il était très grièvement blessé à Sarajevo.
Jean-Yves Potel, vous avez vu le film?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'avais d'appréhension avant de voir ce film parce que j'avais vu le lancement, enfin, la bande-annonce qui ne m'avait pas beaucoup plu. Et j'avoue que le film m'a séduit finalement en le voyant. Et je trouve que bon, je connaissais pas Paul Marchand. Je connais assez bien Sarajevo. J'étais avant la guerre et après la guerre. Je crois que ce film montre vraiment très très bien ce qu'a dit Rémy Roudan est tout à fait juste. Ça montre très très bien les deux aspects, c'est-à-dire l'aspect l'ambiance de Sarajevo à cette époque, de la guerre et le personnage. On pourrait discuter sur le personnage parce que moi je le connaissais pas, j'ai pas lu son livre, j'avais entendu sa voix, c'est un nom qui m'était familier, mais je connais que le personnage du film et que quelquefois, moi je le trouve quand même un peu caricatural, mais bon, la question qui me paraît plus importante, c'est que ce que montre bien ce film, c'est ce qu'était la démarche de ces journalistes. Parce que si vous voulez, on est dans la presse l'après 89. L'après 89, c'est l'explosion de la liberté, c'est la victoire de la liberté. Et immédiatement après, on se prend sur la tête cette guerre.
Oui.
Et cette guerre avec, avant que tous ces journalistes parlent, mais avec une information sur cette guerre qui était absolument lamentable. Quand on était en France, on n'était pas à Sarajevo pour savoir ce qui se passait et tout ce qui était dit, les discours officiels et tout. Et donc, dans ce contexte-là, vous avez des gens qui vont prendre en main, qui vont se battre sur le terrain de l'information et qui vont se battre de façon extrêmement au péril de leur vie. Et ça, je crois que ça participe d'un phénomène plus générale dans toute une génération qui va autour de la guerre en Yougoslavie, comme autour du Rwanda, comme autour d'autres événements de l'époque, va s'éveiller, prendre conscience et vouloir faire quelque chose tout de suite. Et une façon d'être qui est tout à fait différente de celle, par exemple, de l'après 68, etc., où on voulait faire, on avait des grands plans pour faire la révolution, etc. Non, là, il faut faire quelque chose maintenant, tout de suite. Il faut être efficace, c'est urgent. Et je crois que ça a donné beaucoup de collectifs qui ont fait beaucoup d'activités de solidarité avec les gens à Sarajevo et ailleurs. Mais ça a donné aussi ce type de journaliste. Et la naissance de ce type de journalisme, qui existait bien sûr avant, il y a eu d'autres journalistes de guerre avant, très héroïques, mais là, quand même, il y a un changement. Et rien qu'à entendre les noms de Rémi Ourdan, de Hatfeld, tout ce que je sais de cette époque, tout ce que j'ai lu et qui étaient les gens qui m'informaient à cette époque-là, je crois qu'on voit qu'il y a eu un changement. Et ce changement, c'est un journalisme pour la vérité. Il y avait un journal qui était un journal gauchiste, mais qui a existé à un moment, qui s'appelait Vérité et Justice. Et à mon avis, c'était le programme implicite de tous ces gens. Pour la vérité et pour la justice. Ça pose toute la question de la neutralité, de l'engagement du journaliste, et tout ça. Et qui est posé dans le film. Et je crois que ce journalisme-là, il est dans un paradoxe. Il veut rendre compte véritablement en détail de ce qui se passe et de façon vraie. Et en même temps, donc sans faire de l'idéologie, mais en même temps, il s'engage dans l'événement parce que il prend un parti. Et je pense que les altercations, ce que dit Paul Marchand dans le film quand il parle de la fort pronue, etc. On peut trouver ça exagéré, mais en même temps, je crois que ça correspondait vraiment à une espèce de colère qui était partagée par beaucoup de monde. Vous avez parlé de Mourillon, ok, mais si j'en crois le film, je sais pas si c'est vrai, pour la sortie de Marchand, ça n'a pas été si simple. C'est-à-dire, au début, il a fallu convaincre l'armée française, le chef de l'armée française, ce qui était là, de l'évacuer. Au début, ils n'étaient pas pour. Et donc, je crois que là, vous avez donc une situation qui, à mon avis, est très intéressante pour ce qui va se passer après, parce que du point de vue du type de journalisme qu'on va avoir, et de toute une série d'activités de solidarité. Et ce qu'on pourrait appeler également ce qui va se passer après avec les lanceurs d'alerte, etc. Tout ça, à mon avis, c'est ça qui naît.
Ce que vous voulez dire, c'est que vous avez pré-lanceurs d'alerte. Je voudrais rester sur Sarajevo un peu. Rémi Ourdan, vous dites que ce qui différenciait Sarajevo, c'est une des caractéristiques de Sarajevo, ce qui différenciait Sarajevo de toutes les autres guerres, c'est qu'il n'y avait pas d'arrière. La ville entière devenait un front pour les civils comme pour les combattants et pour les reporters qui décidaient d'y vivre. Et vous avez fait un film, alors pour le coup un documentaire sur le sujet qui s'appelle Le Siège en 2016, où vous montrez la manière dont l'esprit de résistance et le fait qu'il s'agissait d'une population civile, comment tout ça, comme la dynamique qui est née, l'esprit de résistance qui est née de cette population civile en fait.
Oui, c'est-à-dire que les journalistes, alors pour parler d'abord de la première partie de votre question sur les journalistes, vous savez, les journalistes, ils fonctionnent de manière assez simple, enfin, s'ils sont bons, s'ils en ont les moyens, etc. Si on leur donne l'accès, ils y vont. Et si l'accès est vraiment ouvert, certains y vivent. Et c'est notamment le cas souvent des freelances, des jeunes, etc. Mais même de certains staffs de grosses rédactions et des agences, etc. Donc, ça c'est un peu dans tous les conflits. Alors ceux qui vivent dans la guerre ou près de la guerre sont évidemment c'est très peu nombreux, mais enfin bon, ça c'est quand même important. Ce qui est très particulier avec Sarajevo, c'est que c'est la seule fois dans l'histoire, à ma connaissance, dans l'histoire des sièges, qu'il y a eu un accès. C'est-à-dire que les sièges, on a toujours su par des témoignages pendant ou plus souvent même après, par les assiégés s'ils ont survécu, parce qu'en général les sièges sont pris, ils sont conquis, ou par les assiégeants, et c'est souvent des journaux d'après-guerre, des livres, enfin voilà, etc. Donc c'est le seul siège documenté en temps réel, en fait, de toute l'histoire des sièges. Et donc c'est aussi la seule fois dans l'histoire du journalisme de guerre que les journalistes vivent sur un front. Parce que comme c'est un petit siège, et que la ville est bombardée en permanence, ou en tout cas peut l'être, il n'y a pas un endroit de refuge, si vous voulez. C'est la première fois que les journalistes vivent sur un front, enfin pour ceux qui ont décidé d'y rester comme ça, pendant 4 ans, puisque d'habitude les journalistes ils bougent beaucoup, ils vont au front, puis ils retournent à l'arrière, et puis ils vont couvrir les soldats, puis ils vont couvrir les civils, et puis ils vont se balader dans le pays, etc. Là, celui qui le souhaitait pouvait vivre sur un front, et ça c'est tout à fait unique dans l'histoire du reportage de guerre, et c'est ce qu'avait choisi Marchand. Alors pour lui ça a duré 15 mois parce qu'il a été blessé, mais pour certains, enfin voilà, pour moi, ça, pour d'autres, ça a duré plus longtemps. En ce qui concerne les Sarajeviens, bah c'est pareil, si vous voulez, c'est-à-dire que les Sarajeviens, les civils, et en général, ils fuient les combats. Dans toutes les guerres, il y a des déplacés, des réfugiés et des exilés, etc. Et dans un siège, ils peuvent pas. Donc ça, c'est très particulier au siège, qui est une technique militaire quand même relativement rarement employée, à part là, ces dernières années, en Syrie, où il y a eu 59 sièges. Donc tous ont été conquis d'ailleurs à ce jour, donc voilà, c'est une technique militaire qui peut être efficace, quoi qu'on en pense d'un point de vue moral. En Bosnie, il y avait eu 6 sièges, dont 3 ont été conquis et 3 ont résisté, dont Sarajevo qui était, il faut le préciser, qui n'avait pas d'armée, puisque la Bosnie n'existait pas 3 mois avant, donc Sarajevo aurait dû être prise. Et d'un point de vue militaire, ils ont défié la résistance sarajevienne, a défié tout à fait l'imagination. Donc effectivement, le fait que les civils et les combattants vivent ensemble sur un front, bah ça c'est particulier à un siège, et du coup ça a beaucoup joué. Et d'ailleurs même les autorités, quand il y a eu des évacuations quand même, parce qu'il y en a eu, puis il y a eu un tunnel après, même les autorités du siège souhaitaient pas tellement que ces civils s'en aillent, parce que ils étaient assiégés par les assiégeants, hein, faut pas renverser ça faisait partie de la résistance, si vous voulez. Le combattant qui a sa famille derrière lui, il se sacrifie, il se bat jusqu'au bout, et c'est cette détermination qui a permis à ces jeunes Sarajeviens, sans armes au début, quand même face à des tanks, face à une armée serbe qui était en fait l'héritière de l'armée yougoslave, donc une armée assez puissante, de tenir comme ça pendant 4 ans et de sauver leur ville.
Alors, en un sens, Paul Marchand était la personne idéale pour ce mélange de civils et de militaires. C'était un journaliste parmi d'autres, mais il y avait quand même un élément particulier dans son engagement, Guillaume de Fontenay. J'ai le sentiment que vous avez d'une certaine manière, peut-être pas édulcoré, mais adouci un certain nombre d'éléments dans le livre qui sont beaucoup plus problématiques et dérangeants. Non, je lis par exemple le début du livre, Sympathie pour le diable, qui est un début entièrement sur la morgue. Paul Marchand écrit « Un bon correspondant de guerre est avant tout un amoureux des morgues, des cimetières, des fosses communes. La comptabilité de la chair morte est une véritable compétition entre les agences de presse et les journalistes. Toucher la mort est la seule façon possible de distinguer les victimes de la journée de celles fauchées la veille. » C'est une question d'exactitude pour lui, mais ça va plus loin que ça, puisqu'il dit « La morgue de Sarajevo révèle les frontières des expériences intérieures des journalistes. Le trophée convoité de l'exactitude revient toujours à celui qui s'approche le plus près. Être le plus près possible du vacarme, au cœur du rock'n'roll, est une obsession pour quelques-uns d'entre nous, et c'est-à-dire clairement pour lui. » Ça c'est un aspect du film que vous le montrez, mais vous n'insistez pas, alors que c'est quand même très très présent dans le livre.
J'ai pas voulu faire une caricature de Paul, j'ai voulu être le plus juste possible face à qu'il est, ce qu'il était, ce que j'ai connu de lui. C'est à remercier aussi le témoignage de Rémi Ourdan et de Renaud Girard, qui m'ont beaucoup aidé au travers de ces années, par les discussions que j'ai pu avoir avec Renaud Girard, avec Jean Hatzfeldt, avec Philippe Lebjoie, avec Rémi Ourdan, qui a eu la gentillesse de m'inviter quand il tournait ce fabuleux documentaire qu'il faut absolument voir sur Sarajevo, le siège qu'il faut absolument voir, et qui a eu la générosité de m'inviter à Sarajevo à ce moment-là et me permettre de rencontrer beaucoup plus de gens qui ont connu Paul et qui ont connu ce siège. Et pour moi, Paul est un fil d'Ariane au travers de tout ça. Il y a plein de scènes que j'aurais pu faire, il y a plein de choses. Paul s'est promené à cheval à Sarajevo avec son chapeau de paille. C'était pas pour moi de faire un concours de folie de Paul Marchand, mais plutôt d'essayer de cerner sa fêlure. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui je pense est le plus intéressant chez qui que ce soit, c'est cette espèce et c'est son humanité, au-delà de ses exploits ou de ses folies, ou de ses prises de bec. C'est pour moi cette humanité chez lui qui me touche.
Oui, bien sûr, mais ce que c'est pas une critique, hein, mais je remarque simplement, parce que c'est pas tant la folie que je trouve intéressante dans les lignes que je viens de citer, que la dimension un peu existentielle, particulière qu'il y avait chez lui, quand il dit que la morgue de Sarajevo révèle les frontières des expériences intérieures des journalistes, ça signifie aussi qu'il y a quelque chose, chaque journaliste ne réagit pas de la même manière, Renaud Girard.
Oui, mais en fait, dans des situations extrêmement dangereuses, et vous avez citer le Rwanda que j'ai couvert au début du génocide en avril 1994, mais il faut que je reconnaisse que lorsque j'arrive à Kigali et que les Hutus qui sont là, qui font des barrages, qui sont avinés, qui me prennent pour un Belge et qui veulent donc me couper à la machette, la seule chose qui m'importe, c'est d'essayer de ne pas me faire découper à la machette. D'ailleurs, je chante la Marseillaise pour montrer que je ne suis pas belge. Mm-hmm. Ça a convaincu, heureusement. Et j'ai pu couvrir ce génocide au Rwanda. Donc d'abord, effectivement, les journalistes pensent à se protéger physiquement et aussi à se protéger psychologiquement. Alors, c'est vrai que Paul Marchand allait au-delà, c'est-à-dire que il ne cherchait pas à se protéger physiquement, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait cette espèce de concept de la lumière rouge qui s'allumait, qui est évidemment un faux concept. Et il ne cherchait pas à se protéger, c'est vrai, vous l'avez dit, il ne cherchait pas à se protéger psychologiquement. Et il voulait vivre l'expérience jusqu'au bout. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez dit qu'il était provocateur. Dans les conversations, quand vous avez des conversations avec des amis, avec des gens, vous avez toujours une sorte de diplomatie, si vous voulez. Vous dites pas aux gens tout ce qui vous passe par la tête. Vous sélectionnez. Paul Marchand, pas du tout. Et je me souviens d'ailleurs, parce que alors il était pigiste, comme vous l'avez dit, il était freelance. Mais alors à l'époque, les freelances gagnaient beaucoup d'argent parce que
ils travaillaient pour plusieurs journaux,
plusieurs voilà, et ils vivaient comme un lord. Paul Marchand avec ses cigares de prix, ses chaussures magnifiques, toujours bien cirées, etc. Et je me souviens un jour, je rentre dans ce hall de l'hôtel Holiday Inn. Et Paul était donc à la cinquième étage, exactement comme le montre le film, exactement, c'est vraiment pareil. Il avait cette chambre, la 517, il se penche sur la rambarde, il me voit arriver avec mon barda, entrer dans le hall, et il le hurle devant tout le monde, « Girard, petit salarié de merde !» Moi, ça m'a beaucoup amusé, parce que c'était, oui, je suis toujours d'ailleurs un salarié, un ouvrier du Figaro, si vous voulez. Et il avait ce côté provocateur, alors qui amusait beaucoup de monde, qui amusait beaucoup ce personnage très intéressant qui est aussi dans le film, qui est Kurt Schork, qui était de Reuters, et qui était fasciné, alors qu'il faisait son métier, qui n'était pas du tout provocateur, qui était très informatif que faire un journaliste d'agence, alors que Paul, dans ses papiers, mêlait toujours le commentaire à l'information. Mais il était fasciné, Kurt Schork, par Paul, et il le protégeait, c'est-à-dire il lui donnait tout son... Vous savez, on avait besoin à l'époque d'un matériel qui était très coûteux et très encombrant, qui était le téléphone satellite. Maintenant, tout le monde a des téléphones satellites, mais à l'époque, c'était la transmission des papiers était très importante, était très difficile, et Kurt Schork l'aidait. Voilà, donc en fait, Paul Marchand... Peut-être parce qu'il avait une fêlure intérieure, une faille intérieure, qui est d'ailleurs très bien montrée dans le film. Hein, quand on le voit pleurer à un moment seul, on le voit tourner comme un fou avec sa voiture sur un parking à Sarajevo, on voit cette fêlure intérieure qui finira jusqu'au suicide. Et ça, c'est très bien montré. Mais c'est aussi la force, c'est pour ça que c'est la force. C'était un reporter déjanté, mais aussi un écrivain très doué, Guillaume de Fontenay l'a dit, un écrivain très doué parce que il y avait cette espèce de feu intérieur, et d'aller jusqu'au bout dans l'expression que vous retrouvez dans son livre « Sympathie pour le Devil ».
Il écrit dans « Sympathie pour le Diable », il va assez loin quand même. Hein, il y a une ambiguïté quand même. Il dit « J'aime les morgues des pays en guerre. Les éclats d'obus, les balles transforment ce qui hier était humain en quelque chose d'immonde et de monstrueux. » Et il semble qu'il y ait...
Il est drogué à l'adrénaline de la guerre,
bien sûr. Et pas seulement l'adrénaline, parce que... Oui.
Il faut faire attention, je crois, parce que...
Rémi Audan.
Guillaume de Fontenay.
Guillaume de Fontenay, oui.
Il faut faire attention, parce que vous soulignez les passages sur la mort, il y a des passages sur la vie qui sont magnifiques aussi, et il y a eu cette phrase, tout le dernier texte du film dans l'avion, C'est un copier-coller de Sympathie pour le diable, et il y a cette phrase magnifique qui parle et qui dit « Le rêve d'un monde meilleur, même si le rêve est obscène et turbulent ». Je trouve que des phrases comme ça, c'est Paul, et ces phrases-là sont très fortes de sens, parce qu'on a tous le rêve d'un monde meilleur, sans se rendre compte chacun que ça peut être un rêve qui est à la fois obscène et turbulent. Et il y a une humanité chez Paul et dans son texte. Moi, j'ai failli refermer Sympathie pour le diable au début de la lecture pour me rendre compte et pour être touché au final par un livre, par un écrivain, par quelqu'un qui va au-delà et qui parle de choses qui sont intimement lié avec notre rapport à la vie, notre rapport à la mort, notre rapport à l'autre.
Tout à fait. Tout à fait.
Mais je ne voudrais pas qu'il soit ciselé dans cette histoire de morgue, parce que c'est beaucoup plus que ça.
Non, mais oui, j'ai pas le temps de finir ce que je voulais dire, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est qu'il y a dans cette quête de son attirance pour les morgues des pays en guerre, une sorte de recherche de l'authentique. Il écrit le visage des morts est un visage sans invention, sans artifice. Celui de tous les jours est un trafic d'apparence honteux, une dissimulation permanente, un mensonge sans fin. Et je me suis demandé en le lisant s'il n'était pas aussi le produit vraiment de cette époque, de ce malaise. Il écrit « Le mal de vivre est ancré si profondément que l'hémorragie est impossible à juguler ». Les années 90, c'est aussi l'époque de la mondialisation entre guillemets heureuse. Celui où Philippe Meret écrit sur l'homme festif et sur le fait que on n'aura plus rien à vivre sinon quelque chose de faux éternellement. Et je me demandais si Paul Marchand n'est pas une sorte un homme de sa génération, en fait, quelqu'un qui cherche une issue à cette mondialisation heureuse, mais jusque dans éventuellement l'extrême.
En fait, c'est cette génération qui se contente pas de ce nouveau confort qui est apporté par cette Europe. On y croyait à l'Europe. Moi, je me souviens, j'avais un petit gilet de reporter. J'avais même mis un drapeau européen en 92, pensant que ça allait me protéger, que ça allait impressionner les gens. Bah, évidemment, pas du tout. Mais on croyait vraiment et on disait, voilà, on va être en paix, c'est fini. Moi, j'avais fait mon service militaire. On pensait être envahi par l'Union soviétique. On avait peur d'être envahi par l'Union soviétique. On se préparait sérieusement à faire la guerre contre l'Union soviétique. Et là, tout ça, on entrait dans le confort de Maastricht, le confort, l'économie allait bien dans les années 90 en France, oui, en Europe, un peu partout. Et il y a ces conflits. Le Liban c'est fini en 90, et il y a ces conflits des Balkans, et il y a des jeunes reporters qui sont d'ailleurs qui ont plein d'effroi de fait qu'il y ait une guerre avec des massacres en plein centre de l'Europe, et qui veulent effectivement risquer leur vie. Il y a toujours évidemment une partie d'adrénaline pour couvrir ça, et qui en fait refusent le confort de cette nouvelle Europe et de faire des reportages sur l'Europe qui se construit.
Juste là-dessus, quand même, je trouve qu'il faut un peu inverser la perspective, parce que il y a effectivement un discours dominant dans les années 90, qui est un discours sur la mondialisation heureuse, sur la fin de l'histoire, etc. Mais je ne pense pas qu'on peut réduire cette génération comme une génération qui a cru à ce discours. Je pense que ce discours, beaucoup de gens n'y croyaient pas du tout et étaient même contre ce discours. Et je crois que, justement, ce que j'ai voulu souligner tout à l'heure, c'est que vous avez dans la jeune génération qui à cette époque-là, vous avez beaucoup de gens qui se mobilisent justement en opposition à ce discours et qui cherchent autre chose et qui veulent justement montrer que la réalité du monde aujourd'hui, c'est pas la mondialisation Europe, c'est la guerre. Moi, je me souviens très bien qu'à cette époque-là, le débat central, c'était la démocratie, la guerre, que la sortie du communisme, c'était pas que les beaux accords avec l'Union européenne, c'était la guerre en Yougoslavie. Posez-vous cette question, qui croyait qu'il y aurait une guerre? Pendant très très longtemps, on pensait que la Yougoslavie était le pays idéal pour passer pour une transition démocratique. Au point même qu'on ne le mettait pas quand on faisait un numéro spécial, on parlait de la chute du mur, on oubliait toujours la Yougoslavie. On n'en parlait pas. Or, la Yougoslavie, la guerre qu'il y a eu, fait partie du processus profond dans la société qui a donné la chute du mur, entre autres. Et donc, chez ces gens, ces journalistes, mais pas que chez des journalistes, vous avez effectivement une sorte de ils sont en porte-à-faux par rapport à ça. Et j'insiste là-dessus parce que je crois qu'on n'est pas dans le processus que peut-être qu'il y a dans votre manière d'élaborer votre question, d'illusions et désillusions. D'illusions qu'on va avoir une belle mondialisation, et puis après, il y a le 9-11, et puis on a la désillusion. Chez ces gens-là, il n'y a pas l'illusion. Il y a au contraire la volonté d'agir tout de suite.
Il y avait tout de même une ambiguïté dans l'époque. C'est-à-dire que c'était aussi l'époque du processus de paix au Moyen-Orient. On allait construire une Silicon Valley régionale. Philippe Meret écrivait l'humanité qui existe encore, le monde continue à tourner, les êtres humains se reproduisent toujours, les barbares ont fait faux bond, Godot s'est abstenu, les avions ne sont pas tombés, qu'allons-nous devenir sans panne générale, sans émeute, sans fanatique, se suicidant en masse.
Paul Marchand, puisqu'on parle de lui, Paul Marchand avait une vraie sympathie. Pas seulement de la sympathie pour le diable, il avait une vraie sympathie pour le danger. La preuve, c'est qu'il a couvert le Liban. Il est allé il n'a peut-être même pas fini des études qu'on ne connaît pas très bien en France pour aller couvrir cette guerre du Liban. Ça, on sait qu'il l'a vraiment couvert parce qu'on connaît beaucoup de gens qui l'ont vu là-bas. Et il s'était installé à Beyrouth Ouest, qui était le plus dangereux pour un
Français.
Avant
d'aller à Sarajevo. Oui.
Tout à fait, à Sarajevo. Donc lui, il avait une vraie attirance, une vraie sympathie pour le danger.
Il a un amour de la guerre.
Un amour de la guerre et du danger, de faire pas comme les autres aussi, de faire pas comme les autres. Et d'ailleurs, un de ses amis, que j'ai bien connu, qui est mort hélas, qui était un autre reporter de guerre, Roger Hawk, a été d'ailleurs pris en otage. Il avait vraiment cette attirance, cette sympathie pour le diable, pour le danger, qui était sans doute issue d'une fêlure intérieure, et qui l'a, c'est vrai, comme l'a dit Guillaume de Fontenay, superbement écrit dans ce livre, Sympathie pour le diable.
Juste un point, on pourrait quand même faire le parallèle. Moi, je crois qu'il y a quand même, on l'a cité plusieurs fois, le livre de Hatzfeld, L'ère de la guerre, il a une vision, à mon avis, un regard différent de celui de Paul Marchand.
Et
qui lui donne ensuite ce qu'il va faire avec le Rwanda. Et donc, il y a une continuité dans ça. Il y a une sorte de maturité qu'il n'y a pas chez, à mon avis,
pas du tout.
C'est
quelqu'un de très stable.
Non, mais bon, pour moi, c'est intéressant parce que ça montre deux attitudes différentes.
Rémi Audan.
Écoutez, je voudrais peut-être souligner que, alors d'abord, tout ce que vous dites sur l'époque est sans doute juste, mais ça concerne quand même essentiellement les gens qui vivent dans la paix. C'est-à-dire que à Sarajevo, franchement, on ne croyait pas à grand-chose. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on avait tous noté que c'était une époque pleine d'espoir, de progrès, de liberté, droits de l'homme. Enfin, à Sarajevo, je vous assure que pendant 4 ans, on ne croyait pas à grand-chose parce que les Sarajeviens ne croyaient plus en rien. Et quand vous vivez là-bas, alors je ne parle pas des journalistes qui passaient, peut-être plus professionnels, hein, d'ailleurs, que Marchand ou que moi qui débutais, ou etc., ou d'autres. Mais je ne sais pas. Enfin, peut-être que ces considérations-là, je crois que c'est quand même des considérations de paix. À Sarajevo, c'est pas tellement une question de désespoir. Bien sûr, les Sarajeviens étaient gagnés par le désespoir. Mais c'est surtout une question de fatalisme, quoi. C'est-à-dire que comment voulez-vous croire une seule seconde à un discours sur l'Europe quand l'Europe ne défend pas les valeurs de vivre ensemble que défendent les Israéliens? Comment voulez-vous croire une seule seconde à l'ONU quand on donne mandat à des soldats dont le métier était de se battre, de ne justement pas se battre, les casques bleus, et quand je me souviens d'une visite de l'UNICEF pendant une sorte de trêve de quelques jours, donc l'UNICEF étant l'organisation de l'ONU chargée des enfants, une trêve de quelques jours pour réouvrir une école avec une jolie plaque ONU, et que 15 minutes après le départ de l'avion de la délégation de l'UNICEF, l'école qui était pleine d'enfants, pour une fois, a été bombardée. Si vous voulez, comment voulez-vous croire à quoi que ce soit quand vous vivez ça tous les jours? Donc je crois que c'est que ce débat-là, voilà, nous concernait, je crois, assez peu.
Vous faisiez votre métier avec une croyance quand même.
Comment?
La manière de faire l'information, il y avait une conviction chez vous.
Oui.
C'est très important.
On garde des convictions, mais il y avait une colère,
une colère,
il faut le dire.
Alors on doit finir cette émission.
Ce que je voudrais dire, en marchant quand même, parce que je vais rejoindre là Guillaume de Fontenay, c'est que dans la guerre, il y a un amour extrême de la vie. Et donc, sans doute que Paul avait des idées de mort et tout ça. Moi, je crois même ce qu'il a détesté le plus, c'est d'être blessé. Il pensait mourir à la guerre. On vit pas dans la guerre comme ça pendant 9 ans à Beyrouth puis à Sarajevo, dans des conditions si violentes sans envisager d'y rester. Enfin, je veux dire, quiconque est sorti de ce siège vivant était très surpris d'en sortir vivant. Donc bon, je pense que Paul, il a pas aimé, c'est la blessure, la douleur, le fait de devoir retourner, vivre dans la paix, d'abord dans un hôpital et tout ça. Il pensait y rester. Bon, mais ça le regarde. Mais les 15 mois qu'il a passé ici à Sarajevo, il était extrêmement vivant. Il faisait partie de ces journalistes qui ne faisaient pas que de travailler, même s'il travaillait beaucoup et qu'il était intègre et tout ça. Mais il aidait les Sarajeviens. Il a eu des histoires d'amour, dont l'une est très joliment représentée dans le film, mais il en a eu d'autres. Il a aidé des gens. Vous parliez tout à l'heure de l'esprit de résistance des artistiques ou culturels de mon film là. Bon ben, il faisait partie de ces très rares journalistes qui consacraient, qui pouvaient traverser la ligne de front pour aller chercher des bidons d'essence, mais pas seulement pour nous-mêmes pour travailler, pour apporter un bidon d'essence à un groupe d'artistes qui allait faire une heure de concert de rock. Voyez. Donc il avait ce truc extrêmement généreux, extrêmement vivant, parce qu'on peut pas vivre dans la guerre si on pense qu'à la mort quand même. C'est-à-dire que Et les Sarajeviens eux-mêmes, pourquoi cette ville a tenu? C'est grâce aux hommes en armes qui ont eu un courage fantastique, qui se sont sacrifiés. Mais derrière eux, toute cette ville, c'est parce qu'il y avait une pulsion de survie, il y avait une intensité, si vous voulez, de la vie civile, il y avait une intensité à tous les points de vue, c'est-à-dire que les rencontres étaient très fortes, tout le monde faisait l'amour avec tout le monde, les gens étaient extrêmement vivants aussi en même temps. Et donc, Marchand, il était comme tous ces gens, dans des situations extrêmes, il était aussi très 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 vivant, et je crois que c'est ce qu'il aimait aussi dans le fait de vivre dans la guerre.
C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Cyril Marchand, avec à la technique Théo Gomard et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière. Yeah.